signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sorti le 11 novembre dernier, d'abord sur la plateforme Vimeo et repiqué depuis sur de multiples sites, notamment sur YouTube, le film Hold Up, Retour sur un chaos, d'une durée de près de 3 heures, a totalisé en moins de 2 semaines plus de 2,5 millions de visionnages et généré plus de 300 000 tweets. Le film postule à la fois que la pandémie de Covid est le résultat d'un complot mondial visant à tuer les pauvres et aussi que le virus n'existe pas et n'est qu'une arnaque destinée à contrôler les populations. Ancien journaliste proche du mouvement catholique contre le mariage pour tous en 2013, son réalisateur Pierre Barnérias s'est fait connaître l'année suivante avec un documentaire consacré aux apparitions de la Vierge. L'un de ses deux coproducteurs, Nicolas Riutski, a pour sa part produit auparavant un film sur ceux qui sont revenus de la mort et l'autre coproducteur, Christophe Cossé, se dit maître praticien en hypnose ericksonienne. Aucun de ses antécédents, ni le fact-checking opéré par la grande presse depuis sa sortie, n'ont empêché Hold Up de voir son audience augmenter, bien au contraire. Retiré de Vimeo en raison de sa réputation de complotisme, le film a trouvé refuge sur une autre plateforme, Odyssée, connue pour héberger des contenus relatifs aux Illuminati et aux extraterrestres, mais a aussi été disséminé par les internautes sur YouTube ou par WeTransfer. Son financement participatif sur la plateforme Ulule, qui avait permis de récolter plus de 180 000 euros au 1er octobre dernier, se poursuivait mi-novembre via une autre plateforme baptisée Tipeee. Ce film s'affirme-t-il comme une défaite des médias traditionnels? Où est-il la dernière en date des manifestations étranges du monde dans lequel nous sommes entrés, où la vérité n'est plus ailleurs mais à peu près n'importe où, et où le moins vraisemblable est presque toujours le plus sûr? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Natacha Polony, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de rédaction de Marianne et vous avez publié sur le site de Marianne une analyse du film Hold Up, dont on va reparler dans une seconde. Rudi Reichstadt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du site Conspiracy Watch, que vous animez depuis 2007, qui est aujourd'hui considéré comme le site de référence sur le complotisme. Et vous le co-animez aujourd'hui avec l'historienne spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite, Valérie Igounet. Et enfin, Éric Sadin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, philosophe, vous avez travaillé longtemps sur les nouvelles technologies, vous avez écrit plusieurs livres, Surveillance globale, Enquête sur les nouvelles formes de contrôle, et vous publiez en ce moment L'ère de l'individu tyran chez Grasset, qui est un livre, un des rares livres, je dois dire, qui donne un éclairage vraiment perçant sur ce qu'on est en train de vivre, sur le monde dans lequel on est entré. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut commencer par parler un peu de ce qu'est ce film, qui se présente comme un film citoyen, fait avec, je cite, la participation de 5232 habitants de la Terre, ce qui est une première, le film s'annonce comme ça, ce qui veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on ne sait pas en fait, et tout est un peu plus ou moins comme ça dans le film, c'est, tout le monde n'est pas présenté, on voit apparaître des personnages comme Niall Ferguson, qui est en fait le scientifique de l'Imperial College, qui a établi les premières prédictions sur le nombre de victimes dans les pays européens si un confinement n'avait pas lieu, ce sont ses études qui ont été critiquées ensuite, on le voit apparaître dans le film, mais rien de son parcours, ni même ce qu'il a fait, n'est expliqué. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Voilà, ça n'empêche pas le film de rencontrer le succès. Ça n'empêche pas apparemment les gens d'avoir l'impression de comprendre quelque chose quand ils le regardent. Vous direz, Reichstadt.
Non, effectivement, ça n'empêche pas ce film de rencontrer un succès qui a plusieurs motifs, ce succès. D'abord, c'est pas un succès artificiel, c'est-à-dire que vraiment des gens ont déboursé de l'argent pour le regarder en VOD ou ont participé à son financement, vous l'avez dit, sur Ulule, sur Tipeee. C'est un film qui donc n'est pas une bulle médiatique uniquement, comme on pourrait tenter de le penser. Ça correspond, il y a un intérêt réel dans une fraction de l'opinion, et une fraction de l'opinion qui a été préparée, en fait, à ce moment, par des mois et des mois, sinon des années, mais en tout cas des mois de désinformation complotiste depuis le mois de février 2020, en fait, depuis le début de cette année. Donc, on a un film pénible, long, vous l'avez dit, près de 3 heures, laborieux, dont la construction, en fait, nous prend par la main. C'est une narration assez progressive, on ne vous parle pas de complot au début, on vous parle du complot à la fin. et de complot, pas n'importe lequel, un complot mondial. On vous parle de manipulation mondiale, et en fait, se dessine un multi-complot mondialiste pour mettre en place un gouvernement mondial avec le concours du Forum économique de Davos. On fait des allusions au Bilderberg, à la trilatérale, à Rockefeller, Bill Gates, etc. On vous explique même, dans ce film, que c'est l'Institut Pasteur qui a créé et fabriqué le virus, évidemment sans aucun contradicteur. C'est donc en cela qu'il pose un problème. Il y a une dimension manipulatoire de ce film, je le crois, parce que il repose sur une technique qui est bien identifiée, une technique rhétorique qui s'appelle la conglobation. C'est-à-dire vous accumulez des arguments pour noyer le contradicteur sous une avalanche comme ça d'arguments qui vont avoir pour effet de vous intimider intellectuellement et de faire naître l'idée que tout ne peut pas être faux. Tout ne peut pas être faux, d'autant que ce documentaire, comme ce pseudo-documentaire, comme tous ceux de son genre, eh bien, il repose sur un mélange du vrai et du faux, du vrai et de l'invérifiable, etc. Donc, ça rend ce produit d'autant plus toxique. Et je dois dire que, vous savez, il y a un proverbe qui est que le mensonge a fait le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. On est exactement dans ce schéma-là, c'est-à-dire que ce film déboule sur Internet. Et évidemment, on a beau essayer de fact-checker chaque séquence, chaque minute du film, parce que on peut s'arracher les cheveux vraiment à chaque minute de ce film, lorsqu'on a suivi un petit peu les développements de ces théories du complot et de ces fausses informations sur le Covid-19 depuis le début de l'année, mais justement il vous laisse en rade, quoi.
Alors il y a effectivement le film commence, moi en le regardant j'ai pensé dans sa structure au film de Omar Diaby, frère Romain, qui était un prêcheur islamiste qui entre 2000 et 2014 avait partir beaucoup de jeunes en Syrie et qui postait comme ça sur Internet des films très long, avec des musiques symphoniques, délirantes, et aussi tout un mélange de références qu'on trouve dans le film. Ça allait à l'époque, c'est dans les films de Marousen, ça allait de l'apartheid à Matrix, en passant par la lutte à Malcolm X et tout ça. Et puis, et là, on a un peu la même chose. C'est-à-dire, on commence relativement doucement par pointer les incohérences ou les informations qui sont sujettes à caution autour de la crise du Covid-19. Et puis, on finit par des choses assez impressionnantes. Un des passages les plus impressionnants, c'est quand même l'aide-soignante qui commente le discours de Laurent Alexandre. Et ça, c'est particulièrement impressionnant parce que Laurent Alexandre lui-même, qu'on voit apparaître sur un écran de télévision dans l'interview de l'aide-soignante, est lui-même en train de délirer complètement devant des élèves de Polytechnique, où il cite d'ailleurs de travers l'essayiste Yuval Harari, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'une mise en abîme de l'absurdité au sein même du film. Natacha Polony, vous parlez de Laurent Alexandre dans votre analyse du film sur le site.
Oui, parce que le fait même de le présenter comme prenant part à un grand complot mondial aide à relativiser normalement pour quiconque a un peu de recul ce qui est dit dans ce documentaire. Le problème, c'est que ce documentaire est en fait un symptôme, et que c'est comme cela qu'il faut le traiter. Ça nous montre à quel point, justement, la véritable démarche doit être, bien sûr, de vérifier les informations et d'apporter la vérité, les faits, face à ce qui est asséné dans ce documentaire, mais que ça ne suffira pas. Et c'est là où il faut se demander exactement comment on peut s'y prendre, parce que ce documentaire, on le voit très bien dans son fonctionnement, s'appuie sur les incertitudes, sur les peurs, mais aussi sur la colère. La colère face à une gestion de cette épidémie qui a été défaillante, face aux mensonges. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le documentaire, vers le début, met en place un montage des déclarations du gouvernement sur les masques,
oui.
C'est totalement ravageur. Et à partir de là, n'importe qui peut être convaincu que puisqu'il y a des mensonges aussi gros là-dessus, le reste doit être à l'avenant. Et c'est, on s'aperçoit à quel point, en fait, les fautes des politiques se payent comptant, et on le voit très bien à travers le succès de ce documentaire. C'est pour ça qu'il me semble que, face à cela, bien sûr qu'il faut dénoter non seulement les mensonges, mais aussi les incohérences. C'est-à-dire que si on regarde avec un peu de recul, ce documentaire est une insulte à l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions absolument effarantes, mais justement parce qu'il agrège toutes les questions que se posent les gens. Or, certaines de ces questions sont parfaitement légitimes. Elles méritent d'être posées.
On va y revenir.
Voilà. Et il s'agit de distinguer ce qui relève des questions légitimes, ce qui relève des délires, ce qui relève de la manipulation pure et simple, pour justement ne pas rejeter en bloc. Parce que si on rejette en bloc, en fait, on explique à tous les gens qui se posent des questions, ont l'impression que ces questions-là n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante, ceux qui expriment leur colère, on leur explique vous êtes des crétins, vous êtes illégitimes parce que vous croyez à ce documentaire qui est un tissu de mensonges, et donc vous n'avez pas votre place dans l'espace démocratique. Or, faut justement les réintégrer dans l'espace démocratique. Et pour cela, il y a un travail politique à faire qui va être extrêmement long.
Éric Sadin, quand je vous ai appelé pour vous inviter, vous étiez en train d'écrire un papier qui va paraître la semaine prochaine, je pense, dans Libération, sur hold-up, justement.
Oui, certes, cette production souffre d'un manque patent de rigueur, d'informations absolument pas étayées et d'une extrême dramatisation, notamment par son fond musical dont vous avez parlé.
Ouais.
Et ce qui la caractérise, c'est qu'elle donne corps, puissamment corps, à toutes les doutes et insatisfactions qui se sont manifestés depuis la crise, alors relativement à l'origine incertaine du virus, à la gestion plus que confuse de l'épidémie par le gouvernement, ou à l'interdiction de l'hydrochloroquine, l'hydroxychloroquine par le gouvernement. Et sa mission, j'ai presque envie de dire son projet, il est manifeste. Il suppose dès le début, et c'est qu'effectivement au fil de la narration, les choses sont supposées être prétendument éclairées, qui suppose qu'il y a une intention concertée dès le départ. C'est la raison pour laquelle, dès le départ et aussitôt, elle a été taxée, à juste titre, je précise, à juste titre, de complotiste. Mais là, je vous proposer de procéder à une opération qui me semble indispensable. C'est-à-dire de distinguer la production. Moi, je préfère parler de production que de documentaire. C'est plus neutre. Production. Bon, c'est un petit détail. De distinguer cette production du public. Est-ce que le fait que de très nombreuses personnes, on s'est aperçu que c'est de très très nombreuses personnes, adhèrent à sa thèse, est-ce que ça fait de ces très nombreuses personnes des complotistes? Alors moi, je crois que là, ce serait une version erronée et à courte vue, et qu'en revanche, il faut voir le symptôme, vous avez raison, chère Natacha, vous avez raison, le symptôme ou le puissant, pour évoquer l'excellent titre de votre émission, Marc, le puissant signe des temps qui est à l'œuvre. Et c'est quoi, à mon sens, ce puissant signe des temps qui est à l'œuvre? C'est une scission, j'ai presque envie de dire d'un point de vue religieux, un schisme, entre d'une part celles et ceux qui encore, malgré les dérives chroniques, malgré ces défauts inhérents, accordent encore foi, jusqu'à quand, mais encore accordent foi à un ordre économique, politique,
narratif,
institutionnel en place, et une autre et quantité de personnes, j'ai envie de dire frange de la population ou une deuxième sphère, qui, année après, frappée par tant de désillusions, n'accorde plus aucun crédit à cet ordre en place, dans la mesure où ils ont vécu, et tout cela n'a cessé de s'accélérer, depuis le tournant néolibéral, l'impression de vivre des situations de précarité, d'inutilité de soi, d'assister aux inégalités sociales, et cela sans fin. Donc, clairement, la confiance n'y est plus, pour un grand nombre. La foi n'y est plus. Et j'ai presque envie de dire, même, et c'est ça le fait nouveau depuis quelques années, vous l'avez peut-être remarqué, même à l'égard de partis dits anti-système. Là, il s'agit davantage de parler en son propre nom. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de populisme, je n'ai pas le temps de développer cela. Mais ce puissant mouvement, il faut ô combien, évidemment, l'articuler aux technologies numériques, à l'usage de plus en plus assidu de l'Internet et la prolifération de plateformes dites à juste titre complotistes et que notamment a accueilli à bras ouverts YouTube depuis sa généralisation. Et cela s'est passé, cette tension entre désillusion et usage de technologies numériques, ça a contribué à ce que je nomme la formation d'une hargne qui se voudrait lucide. Et cela, juste sur ce point, crée un nouveau clivage, Marc. Clivage.
On va y revenir.
Qui conduit à des formes de surdité de plus en plus.
Vous parlez d'isolement collectif. Alors, qui permet d'alimenter cette espèce de hargne. On va revenir.
En tous les cas, des formes de surdité qui peuvent conduire possiblement à la volonté à terme d'en découdre cette situation.
Alors, d'abord, il faut se mettre d'accord sur ce que signifie le terme complotiste pour savoir si les gens qui regardent le film y a des raisons complotistes ou non. Il y a une dimension métaphysique dans le complotisme. Jacques Attali, qui est d'ailleurs cité dans le documentaire comme un des comploteurs, cite dans un de ses blogs cet aspect métaphysique quand il parle de la recherche de la cause cachée du mal. C'est Dieu ou le diable. Enfin, à la base du complotisme, il y a l'idée que le mal a une origine et qu'il faut trouver un sens à ce qui se passe. Il faut trouver un sens à ce qui n'en a pas a priori. Il y a toute cette confusion mentale. C'est Joseph de Maistre attribué la révolution aux légions de Satan, le protocole des sages de Sion attribuait le chaos de l'Europe aux Juifs. Il faut toujours trouver un sens global à ce qui se passe.
Léon Polikov disait la causalité diabolique.
Voilà, c'est ça, exactement. Vous direz, Chat. Alors, c'est dans cette recherche de causalité, il y a un désir de savoir. Les gens vont voir ce type de film parce qu'ils cherchent à comprendre et manifestement, ils ne trouvent pas, ou ils n'ont pas l'impression, ou ils n'ont plus l'impression de trouver une compréhension de ce qui se passe, non seulement dans les discours politiques, mais dans la lecture des journaux quand ils en lisent encore, ou dans la lecture des livres. Donc il y a quelque chose dans la production de ce type de document parfaitement ennuyeux, mal foutu, non sourcé, auquel, quand on le regarde vraiment avec attention, on ne comprend rigoureusement rien, on n'arrive pas à comprendre l'enchaînement des idées, quelque chose, malgré tout, donne l'impression aux gens qui le regardent, qui comprennent ce qui se passe. Et c'est absolument étonnant. On voit dans le film la mise à niveau de tous les discours. Des prix Nobel de chimie sont mis côte à côte avec les élucubrations de deux chauffeurs de taxi. Il y a des gens anonymes qui témoignent de choses qu'ils ne prouvent pas. Et tout ça fonctionne néanmoins, vous dirais-je.
Et aussi des gens connus assez défavorablement.
Ah oui.
Une personne d'ailleurs condamnée pour escroquerie, quelqu'un qui vient directement de l'extrême droite antisémite soralienne, et qui n'est pas évidemment présenté comme tel, bien sûr. Il y a des youtubeurs complotistes qui sont présentés dans ce film comme des lanceurs d'alerte. Vous avez également une sociologue militante connue qui fait une analogie parfaitement obscène avec l'Holocauste. Alors, elle est revenue là-dessus, mais c'est une analogie qu'elle fait depuis plus de 3 ans maintenant, par ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est l'enchaînement, effectivement, de pseudo-experts, et parfois de vrais experts, mais dont la parole est malgré tout contestée par leur père, sans jamais aucun contradicteur. Juste, le complotisme, il faut le dire, c'est très ancien, le complotisme. Sans doute qu'il y a des complotistes depuis qu'il y a des complots, donc depuis qu'il y a des sociétés humaines, donc des luttes de pouvoir, d'influence, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous sommes entrés dans un monde où ces idées-là ont une chance historique du fait de la configuration technologique, médiologique, j'ai envie de dire, pour reprendre une terminologie très inventée par Régis Debray. Je sais que dans Marianne, il y a une chronique régulière, Le coin des médiologues, je crois,
Sous
le contrôle. Et que nous dit Régis Debray depuis très longtemps ? Il nous dit finalement, les conditions matérielles de circulation, de transmission des idées, du savoir, de l'art, etc., jouent sur ces idées, ces représentations, cette superstructure. Donc, évidemment, la réforme protestante est la fille de l'imprimerie, de l'impression de Gutenberg. Depuis un peu plus de 20 ans, on est dans une configuration Internet, le haut débit, les plateformes de vidéos en ligne, les réseaux sociaux, plus ce smartphone qui fait de chacun de nous, en puissance, quelqu'un qui peut faire du texte, de l'écrit, publier ce qu'il veut en permanence, de l'audiovisuel, très facilement. Cela redistribue évidemment considérablement les cartes et donne une chance, mais historique, en fait, au complotisme et à ces idées-là, et notamment aux croyances délirantes, de se développer et de trouver un débouché qu'elles n'avaient pas auparavant.
Moi, je ne le crois pas.
Eric Sadin,
c'est intéressant.
Et ensuite, Natacha.
Moi, je ne crois pas à ça. Je crois déjà, si on veut parler de fact-checking. Je vais vous répondre, hein, je vais vous dire pourquoi je ne vous crois pas. Fact-checking, je pense que ça s'avérait nécessaire, impératif, encore aujourd'hui, mais ça avait surtout une valeur il y a quelques années, comme le mouvement de suspicion était encore relativement à la marge. Je pense que le mouvement de post-vérité, dont nous avons beaucoup parlé, vous vous souvenez que la chargée de communication de Donald Trump, en janvier 2017, oui, oui, avait dit qu'il avait fait un temps merveilleux le jour de son intronisation, alors qu'il avait plu. C'est pas difficile à vérifier. Là, le fact-checking peut être efficace. Je crois que nous entrons aujourd'hui dans une autre ère. Tout cela s'est opéré très rapidement. C'est celle de l'atomisation des croyances. C'est pas du tout la même chose. C'est pas une affaire de post-vérité. Qu'est-ce que je nommerais l'atomisation des croyances? C'est que de plus en plus, les personnes se forgent des modes de perception du réel, des événements rabattus à ses propres souffrances, à ses propres ressentiments, à ses propres...
C'est ce que vous appelez une nouvelle fabrique de convictions.
Une nouvelle fabrique des convictions. Et cela est évidemment encore à mettre en rapport avec le phénomène... Alors là, c'est un peu subtil, mais je vais essayer de dérouler en quelques mots les choses, à mettre en rapport avec le phénomène d'ultra-responsabilisation de soi qui est à l'œuvre depuis le tournant néolibéral, d'appeler à s'en sortir, de nous en remettre continuellement à nous-mêmes. Et tout cela est articulé avec le recul du principe de solidarité de l'intervention de la puissance publique. Et cela a concouru à l'avènement de ce que je nomme dans mon livre, vous avez eu la gentillesse de le citer, cher Marc, l'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, a contribué à instaurer ce que je nomme un isolement collectif, c'est-à-dire le fait de se sentir de plus en plus dans une forme de déliaison relativement à l'ordre commun, que l'usage des écrans qui permettent, et des réseaux qui permettent un accès à la carte, à l'information, la formation de réseaux d'allégeance avec des personnes qui participent, qui partagent des mêmes désillusions, des mêmes rancœurs, et cela est aussi, pour finir, à mettre en regard avec des formes de détresse collective que nous vivons depuis un certain nombre d'années, mais que la crise du Covid a amplifié, et notamment chez les jeunes. On en entend. Vous lisez un journal aujourd'hui, j'ouvre le Monde, je lis quantité d'articles sur la détresse des jeunes aujourd'hui qui peuvent même plus avoir de rapports sociaux. Et cela crée un environnement, j'ai presque envie de dire anthropologique, social, comportemental, où on est seul face à ces écrans. Et donc, seul face à ces écrans, ça veut dire que l'argumentation, la pluralité, le fait d'être déporté de ses propres perceptions, tout cela est atténué au profit de l'information de ses propres croyances, rabattu sur ses propres ressentiments et alimenté par des formes de détresse.
Natacha Polony.
J'ajouterais à ce que vous venez de dire, Éric Sadin, le fait que ce cycle néolibéral, au bout duquel sans doute nous arrivons, a instauré un système qui a fragilisé largement la démocratie et qui a provoqué ce sentiment de dépossession chez les individus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le discours qui est tenu depuis plus de 40 ans, c'est que l'économie est une science dure, qui relève des vérités mathématiques, et que donc ça ne relève plus de l'ordre du politique, ça n'a pas à être débattu, mais c'est hors de cela, c'est quelque chose qui s'impose, d'où le fait d'ailleurs qu'on ne gouverne plus, on mène une bonne ou une mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que ceux qui savent peuvent imposer ce qu'il faut, et les autres ne savent pas. À partir du moment où on a cette dimension-là qui se met en place au tournant des années 1980, vous avez petit à petit un abandon de leur rôle par les politiques, dans la mesure où, justement, ils renoncent à modifier ce système. Donc, ils renoncent à leur rôle démocratique, ils renoncent à ce pourquoi ils sont élus, et ils imposent une politique qui apparaît aux citoyens comme toujours la même. Donc, ces citoyens ont l'impression d'être dépossédés de leur souveraineté, de leur pouvoir. Et c'est cela, en fait, qu'on entend dans ce documentaire, comme on l'entend dans toutes les crises depuis ces dernières années, une crise démocratique profonde, avec le besoin de reprendre le pouvoir et de comprendre pourquoi les choses se font de cette façon-là.
Je vais quand même poser une contradiction. Là, on parle de néolibéralisme, mais les mensonges dont vous parlez, Natacha Polony, ou les incertitudes sur les chiffres concernant l'écart répertorié de coronavirus, c'est pas exactement, en tout cas en France, le produit du néolibéralisme.
Ah non, ça non.
C'est le produit d'une technocratie française. Et de l'État français. Donc il y a d'autres choses.
Pour partager.
Quand je dis, attends, il faut bien nous entendre sur les définitions. Ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est la vague de dérégulation de l'économie, oui, en particulier des échanges internationaux, à partir de la fin des années 1970, au tournant des années 1980. Et tout cela, petit à petit, s'étend à l'ensemble du monde pour créer une sorte de marché mondial. C'est ça, le néolibéralisme, donc, que l'on voit à travers les traités de libre-échange, etc. Mais c'est évidemment, ça s'adapte à chaque pays. Et la France a cette capacité extraordinaire à mêler l'hyper-technocratie avec la dérégulation. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une régulation, j'allais dire, d'autant plus forte à l'intérieur qu'il y a dérégulation et donc perte de capacité d'action vis-à-vis de l'extérieur. Donc cela se voit d'ailleurs dans la gestion de l'épidémie, c'est-à-dire une forme d'autoritarisme qui s'amplifie parce que il n'y a plus les leviers. Donc, pour masquer le fait qu'on n'a pas de quoi fabriquer des masques, qu'on n'a plus de quoi fabriquer des tests, qu'on n'a pas de quoi fabriquer du matériel de réanimation, eh bien, on prend des décisions de plus en plus autoritaires en sortant là aussi du processus démocratique. C'est-à-dire que la façon dont Emmanuel Macron utilise son conseil de défense plutôt que les délibérations devant les élus, les députés, plutôt que le Conseil des ministres même, qui est censé être tout de même responsable devant l'Assemblée nationale, ça nous raconte une faille. Or, vous n'avez pas un tel mouvement de colère et d'adhésion à des discours complotistes dans des pays qui maintiennent des institutions démocratiques qui font que le débat ne se passe pas ailleurs que à l'Assemblée, ailleurs que devant des instances élues. Bien sûr qu'il y a une tendance globale dans le monde, par le fait même des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, mais il y a une crise particulière à la France parce que les institutions s'ajoutent à tout le reste pour détruire petit à petit le fonctionnement démocratique.
Alors, une seconde, Éric Sadin, et ensuite Rudi Reichstadt, que je vois chez la
tête. Oui, il y a une histoire de la défiance.
Oui.
Tout cela ne se passe pas ex nihilo. Pour ma part, j'ai quatre événements que je vais vous citer rapidement. C'est d'abord il y a 20 ans, les mensonges éhontés de l'administration Bush dans la préparation de la Seconde Guerre du Golfe, qui ont laissé des traces, c'est-à-dire.
Oui, alors là, il y a trois choses, il y a 20 ans. Il y a le 11 septembre, les images du 11 septembre qui circulent avec des théories conspirationnistes dès le début sur Internet.
Oui,
et là-dessus, les mensonges de l'administration américaine. C'est cette dynamique-là qui crée les conditions nécessaires au développement du
Sur les attentats du 11 septembre, là, c'était surtout que Internet a permis de donner une caisse de résonance mondiale à des théories totalement saugrenues. Ça, c'est encore autre chose. Là, je parle des mensonges éhontés de l'administration.
Oui, non, je veux dire, c'est la même séquence temporelle.
Absolument. C'est la même séquence et qui a conduit à une décrédibilisation d'une certaine classe politique et aussi médiatique. Vous vous souvenez, jusqu'au New York Times qui avait soutenu les propos de l'administration Bush. Il y a un deuxième événement qu'on a oublié mais qui est aussi décisif. Enfin, en tout cas pour l'Europe, c'est les référendums de la Constitution européenne en 2005, où il y avait eu le non en France et aux Pays-Bas et les gouvernements respectifs ont redéfini, enfin ont nié les décisions. Il y a alors un événement capital à l'échelle planétaire, c'est évident. Et ça, on en paye encore aujourd'hui le prix en termes de croyance et d'ordre commun. C'est la crise financière de 2008. Alors là, on a vu à quel point il y avait une complaisance, voire une compromission de l'ordre politique à l'égard d'un ordre politique qui ne cessait de procéder excès sur excès. Et puis il y a un autre événement, Marc, si je peux trouver le temps de le dire, qui me paraît plus sournois, mais qui est aussi décisif dans un autre genre. C'est les modes de management de plus en plus implacables, inhumains, qui se sont instaurés encore plus depuis les années 2000, notamment par le fait, j'en ai beaucoup parlé, de la numérisation des entreprises. Et on a vu, et je date ça, pourquoi j'en parle maintenant, parce que 2008, crise financière, 2009, France Télécom, où des méthodes totalement inhumaines, inacceptables, ont été mises en place. Et comment elles ont été mises en place? Non seulement elles ont conduit à des suicides, à des troubles musculo-squelettiques, à des détresses, mais comment elles ont été mises en place? De façon confidentielle. C'est ce que le rendu de justice a dévoilé. Donc tout cela a érigé un ordre général de plus en plus croissant. Nous vivons ça, l'aggravation de cet ordre-là, de fragilisation de croyance à l'égard d'un ordre général. C'est pour ça, et de formation de défiance massive. C'est pour ça que, pour ma part, et pour terminer sur cela, je crois qu'il va falloir forger de nouvelles catégories. Et c'est là où, mon cher Rudi, je partage tout à fait vos positions, mais je pense que dès qu'il y a des phénomènes dits complotistes, complotistes. Et ils le sont. Mais il faut élargir le spectre d'intelligibilité. On voit défiler sur le plateau. Je vous dis tout ça en toute amitié, hein, Rudy. Je partage vos positions, que les choses soient claires. Mais on a toujours cette polarisation entre les spécialistes du complotisme qui viennent un peu disséquer à juste titre les événements, mais à l'intérieur d'une partition qui fait qu'il y a d'un côté ceux qui seraient du côté de la raison et qui ont les moyens d'analyser les choses, et d'un autre côté, toutes les brebis égarées qui sont incapables de comprendre comment les choses fonctionnent. Je pense qu'il va falloir forger des nouvelles catégories d'intelligibilité au risque de voir des phénomènes de fureur de tous, entre tous, voire de violence monter dans la société.
Vous direz ça?
Non, moi, je crois qu'il y a une grille d'interprétation du complotisme qui concède trop en fait au système de justification du complotisme, qui est celle selon laquelle finalement ces théories du complot permettraient une réappropriation de la parole par les dominés, par justement ceux qui ne sont pas les sachants dont vous venez de parler. À mon sens, et je le crois profondément, je pense que c'est une erreur d'analyse. Je pense que c'est une erreur d'analyse parce que face au complotisme, on a en réalité une négation de l'esprit critique. Vous parliez de défiance, mais le complotisme est aussi pas seulement un symptôme de la défiance, c'est aussi un agent de sape, un agent actif de la défiance.
Mais tout ne vire pas au complotisme.
Tout ne vire pas au complotisme.
Tout ne tend pas vers le complotisme. C'est là où il faut développer, à mon avis, des analyses subtiles et complexes.
Mais je vous en propose une.
Très bien.
C'est que le complotisme, je ne crois pas que ce soit qu'un phénomène de défiance. Je crois qu'on ne comprend rien au complotisme si on ne comprend pas que c'est la rencontre, les noces de la défiance d'une part et de la crédulité d'autre part. Vous ne comprenez rien au complotisme si vous ne voyez pas que vous n'avez pas affaire à des gens qui comme ils le prétendent, sont allergiques aux mensonges et ont trop soupé des mensonges sur l'administration américaine ou notre gouvernement, j'en sais rien. Non, quand on est allergique aux mensonges, on va pas acheter un film comme Hold Up qui ne fait que vous mentir du début à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous abreuver à des sources mille fois plus toxiques. Vous n'allez pas vous abreuver à des sources mille fois plus toxiques par rejet de sources contestables, discutables, de ce que vous lisez parfois dans le monde ou ailleurs, et qui n'est pas au-dessus de la critique, mais c'est pas pour aller vous informer.
Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous croyez que tous ceux qui adhèrent à la thèse sont complotistes du film?
Ceux qui adhèrent à une thèse complotiste, oui, on peut les qualifier
de complotistes. Natacha Polony.
Je pense surtout que la plupart des gens qui regardent un film de ce genre-là n'adhèrent pas à la totalité de la thèse, mais à certaines parties, ou surtout voudraient que certaines questions soient posées. Et c'est pour cela que plutôt que de rejeter en bloc en expliquant « c'est complotiste, il y a des crédules » et en gros, nous qui savons, nous allons remettre les brebis égarées dans le droit chemin, je pense qu'il est nécessaire de poser certaines questions, de décrypter exactement. Par exemple, dans ce film, quand il y a une réflexion sur les crypto-monnaies, le terme est absurde. Les crypto-monnaies, c'est le bitcoin, etc. Ce que veut dire le film, c'est en fait qu'il parle de la transformation des monnaies, mais des monnaies tout à fait classiques, étatiques, en monnaies virtuelles. La disparition de l'argent liquide. Ça, c'est un phénomène qui existe. Il y a aujourd'hui des choix, d'ailleurs tout à fait contestables, et que pour ma part, je trouve extrêmement dangereux, de faire disparaître petit à petit l'argent liquide. Mais justement, il faut expliquer à ceux qui ont regardé ce film que ça, c'est vrai, ça n'a strictement rien à voir avec le coronavirus, mais c'est absolument nécessaire parce que ça échappe au débat démocratique. Et tant que des éléments aussi importants échappent au débat démocratique au nom d'intérêts économiques, vous allez créer de la défiance que vous ne guérirez pas en expliquant aux gens qu'il ne faut pas regarder ce genre de film parce que c'est pas bien et que ça ment.
Natacha, je dirige un média, un tout petit média. Vous dirigez un média, un hebdomadaire, qui est très lu, qui est influent. Où avez-vous vu que ces questions-là étaient interdites, qu'on ne pouvait pas les poser?
La dernière fois que j'ai parlé de ça dans une émission, je me suis fait traiter de complotiste. Vous le jure. Voilà.
Alors, si vous voulez, le complotiste est un terme qui est chargé négativement, péjorativement depuis le début.
Mais oui, ça permet de rejeter certains dans le camp du mal.
Mais comme tout un tas d'autres termes, s'il y a des mésusages de ce terme, ça ne disqualifie pas
Mais c'est pour ça qu'il faut se méfier des termes englobants.
Sur le fond, Rudi Reichstadt, il y a une objection que j'aimerais vous faire. Quand vous dites ceux qui n'aiment pas le mensonge ne vont pas aller vers des films comme Hold Up, est-ce que c'est pas faire un peu trop confiance à la raison que de penser comme ça? Par exemple,
c'est peut-être ma faiblesse.
Par exemple, l'électorat de Trump en 2016 est allé vers Trump en partie parce qu'il mentait, sachant qu'il mentait parce que justement le reste du corps politique était discrédité pour ses mensonges, donc au moins, comme disaient les électeurs de Trump, il est lui-même puisqu'il ment, ouvertement. Donc là, on a affaire à quelque chose d'assez tordu, mais il me semble que c'est ce qu'on voit de plus en plus, ce type de logique.
Je sais pas, moi je crois qu'il y a des bonnes raisons, entre guillemets, de voter Trump quand on était américain, redneck, etc. Je vois très bien ce qui pouvait motiver, les raisons sociales notamment, qui pouvaient motiver un vote pour Trump. Mais je suis pas certain de ça, que c'est parce que... Non, en général, Trump et les populistes d'ailleurs, en général, sont crédités de parler vrai, de dire la vérité. Et que même si factuellement ils peuvent aligner les contre-vérités, c'est au profit d'une vérité surplombante qui vient transcender tout cela, et au fond, ils ont raison.
Mais c'est compliqué parce que cette vérité des populistes ou cette vérité du complotisme passe par une forme de mensonge assumé et reconnu comme tel. Au moins, il se présente avec honnêteté puisque oui. Le mensonge est flagrant. Il y a quelque chose, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui est en jeu là, qui vient peut-être du fait que la notion de savoir a changé depuis 20 ans. C'est pas seulement le régime de vérité qui a été mis en cause au début des années 2000. C'est aussi le régime de savoir. Il y a plus de savoir ésotérique. Tout ce qui se réclame d'un savoir ésotérique aujourd'hui est disqualifié de fait, et tout savoir est horizontal.
Et au-delà, il y a une dissolution de la notion de vérité. Carlo Ginzburg disait qu'il y a quelques années, dans une université américaine, il parle de la vérité et que les gens commençaient à sourire. Est-ce que vous comprenez, la vérité, c'est construit, ça n'existe pas réellement, etc.
Moi, je crois que c'est pas une affaire de vérité.
Comment ?
Je pense que c'est pas du tout une affaire de vérité.
Oui.
C'est une affaire de dignité. Alors, je vais m'expliquer.
Oui, oui.
Hier, j'ai vu sur Facebook, c'est la première fois que je voyais ça, j'ai été très frappé. J'ai vu quelqu'un qui m'a demandé en ami, donc ça m'inquiète un peu, en ami entre guillemets, qui utilisait le carré ou le rectangle plutôt « Je suis Charlie » de le design, ouais. Et il a mis « Je suis complotiste ». Alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire c'est la première fois que j'ai vu un poste pareil, et moi, sur le moment, je me suis dit « je ne peux pas comprendre cela comme une affirmation complotiste ». Je vous explique en quelques mots, c'est-à-dire qu'en général, les complotistes ne se prétendent pas du tout comme complotistes, vu que c'est péjoratif. Moi, j'ai compris ça immédiatement comme « vos sornettes, je veux plus jamais y croire ». Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vos sornettes, pourquoi ? Parce que j'ai vécu des expériences, mais dont il faut saisir. Et c'est là le schisme dont nous parlions tout à l'heure. Des phénomènes d'humiliation, d'inutilité de nous-mêmes, que la crise du Covid ne fait faire qu'amplifier. Je suis complotiste, ça veut dire, non pas j'ai trop souffert, j'en ai marre de me faire avoir. C'est ça, de façon familière, ce que ça veut dire. Donc, puisqu'on est vers la fin de l'émission, on pourrait se demander comment on peut s'en sortir. On peut faire des analyses, comme vous le faites, et je le redis à juste titre, Rudy. Mais je pense qu'il y a des impasses. Je pense qu'il y a des limites à continuellement, non pas dire le bien ou le mal, mais à dire, voilà, là, il y a des rouages et il y a des gens qui s'égarent. Je pense, et nous le sommes tous d'accord, pour ma part, je vois deux perspectives et vers lesquelles il faut s'engager, mais sans attendre. La première, j'ai presque envie de dire, nous sommes tous d'accord, et aujourd'hui plus que jamais, il faut renouer avec l'État-providence, le retour de la puissance publique, le souci d'une justice sociale, le retour des services publics. Mais ça, si nous sommes tous d'accord, je pense que nous et moins évoquer une dimension au moins aussi décisive qui est en partie le cœur de l'affaire, à mon sens, c'est celle d'être davantage acteurs de nos vies. Car nous avons vécu, comme vous l'avez dit, Natacha, une dépossession de nous-mêmes. Donc je crois qu'il va falloir apprendre à développer des modes d'organisation à toutes les échelles de la société qui rendent chacun davantage acteur. Et là, je fais référence à la très belle notion de John Dewey de démocratie radicale. Moi, je parlerai...
Il faut expliquer que c'est en deux mots. Hein. C'est un philosophe américain. C'est un pragmatiste, en fait.
Absolument. Hein? Et pour ma part, je dirais une démocratie partout agissante. C'est-à-dire qu'elle donne le moyen de, et notamment dans le cas du travail, de s'investir, de recevoir une estime de soi, mais aussi, et là, et je terminerai sur ce point-là, d'en appeler à la puissance publique. Parce qu'on dit on fait plus société. Alors très bien, on ne fait plus société, c'est un des constats que je fais dans mon livre. Mais comment on fait pour refaire société ? Parce que dire on va refaire société, c'est des vaines paroles. Je crois que l'heure est à la construction de collectifs, ce qui est une dimension qui donne corps à la volonté de faire société. Collectif dans le travail, collectif dans le soin, collectif dans l'éducation. Et là, la puissance publique peut aussi intervenir d'une autre manière, plutôt que de financer des start-up qui veulent marchandiser continuellement nos existences et donner de l'argent public pour ces sortes de dérives que je n'ai cessé de dénoncer, de non de l'argent public pour des projets collectifs qui inventent des nouvelles modalités d'organisation et qui rendent les personnes, les individus, les citoyens, nous-mêmes, davantage acteurs de nos vies. Et cela, ça conduira à quoi ? Automatiquement et systématiquement à terme, à mettre les ressentiments et les défiances de côté au profit de la volonté tout simplement de construire positivement.
Je rejoins totalement Éric Sadin sur sa chronologie tout à l'heure qui était fondamentale, sa chronologie de la montée du complotisme. Souvenez-vous, en 2005, le référendum sur le traité constitutionnel, c'est là qu'on voit apparaître un personnage comme Étienne Chouard, c'est là qu'on voit apparaître cette idée que, puisque 95% des médias ont fait campagne ouvertement pour le oui, alors que le non l'a emporté à 55%, il y a cette fracture entre les médias et les citoyens. Et les citoyens ont l'idée qu'il faut aller s'informer ailleurs. Ça, c'est une catastrophe et je pense que les journalistes l'ont compris beaucoup trop tard et ne se sont pas assez remis en question. Le résultat, c'est que cette défiance, petit à petit, a augmenté. Quand vous prenez la crise des gilets jaunes, moi j'ai été frappée, les premiers gilets jaunes, ceux qui étaient absolument pas sélectionnés, c'était des gens lambda, des petits employés, des petits patrons, etc. Et je me souviens de ces phrases qui surgissaient spontanément de la part de gens qui n'étaient pas politisés. Nous sommes citoyens, nous sommes souverains. Je me souviens d'une femme qui prononce ces mots, elle qui était vraiment pas politisée. Nous sommes citoyens, nous sommes souverains. Ça veut dire qu'ils se sont souvenus que, tout simplement, la démocratie, c'est le fait qu'une voix vaut une autre voix, qu'il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Or, souvenez-vous, au moment du Brexit, de tous ces discours qui ont surgi, oh, ce sont les non-diplômés qui ont voté pour le Brexit, il faudrait peut-être conditionner le vote au diplôme. Mais des hommes politiques ont sorti ce genre de choses. Tant qu'on ira dans ce sens-là, tant qu'on considérera que la démocratie doit être arrangée parce qu'elle pose problème, ce qui était déjà la politique des libéraux depuis le début, vous regardez en 1848, c'était les libéraux qui étaient opposés au suffrage universel et qui ont tout fait pour mettre un sens. Donc, vous avez ce genre de phénomène, ça ne se guérit pas en traitant les gens d'imbéciles. La rationalité, elle est là. En fait, le problème des complotistes, c'est souvent que c'est une forme d'hyper-rationalité tordue. Donc, ce n'est pas une question d'absence de rationalité.
C'est le problème du négationnisme au début.
Voilà, c'est une recherche de rationalité qui se tord petit à petit sous l'effet du ressentiment de la frustration. Donc, il faut des instances démocratiques qui permettent de débattre et de débattre dans un cadre où on va pouvoir s'entendre sur les faits. En effet, le problème est que l'on ne s'entend plus sur les faits et qu'on a un mélange entre cette hyper-rationalité tordue, ce jeu des réseaux sociaux et une émotion permanente. Donc, des outils démocratiques, le retour d'une puissance publique qui représente les intérêts du peuple, et là, on va peut-être commencer à régler ce problème, mais c'est certainement pas en traitant les gens d'imbéciles.
Très bien, Max, ce sera le mot de la fin. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la technique Benjamin Perru, Laurent César, Julien Bourdet, Patrick Beaulieu, Wojciech Noiret, Franck Malabry, Francesca Fossati. Dans un instant, une histoire particulière.